Paul, c'est après un beau chemin depuis toutes tes années d'école biblique, de catéchisme et de groupe de jeunes, un chemin balisé par celles et ceux qui t'ont accompagné et aux côtés de tes proches, que tu as pris cette décision de demander le baptême. Tu as toi-même choisi ce passage biblique de l'évangile de Luc, que ton oncle vient de lire, qui présente un Jésus en chemin suivi par les foules. Vous l'avez entendu, Jésus ne mâche pas ses mots quand il parle de l'engagement nécessaire pour le suivre et va utiliser pour l'expliquer deux petites paraboles. Juste avant cette histoire dans l'évangile de Luc, Jésus est à table et raconte l'histoire des invités du grand festin. Juste après notre passage, il repasse à table et il lui est reproché ici de manger avec des gens de mauvaise vie. Dans l'évangile de Luc, nous assistons à une alternance entre repas et chemin. Comme ici, nous avons entendu au début du texte, plus tard, Jésus est en chemin et des foules nombreuses l'accompagnent. Se nourrir, l'estomac et l'esprit, puis cheminer, et ainsi de suite, c'est l'invitation de Luc pour vivre l'Évangile. L'Évangile, nourriture et chemin pour celui qui accueille la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul, le temps que toi tu as pris pour cheminer et pour te nourrir est parole d'Évangile. En prenant le temps de l'attente, des questions, de la réflexion, des échanges, tu as finalement décidé de t'engager en vivant pleinement cette bonne nouvelle. Et ce n'est pas fini. Ainsi en est-il pour chacun de nous, notre engagement est fait de nourriture et de chemin. Toi, tu t'engages aujourd'hui à poursuivre cette route, nourrie par le souffle de Dieu, enrichie par ceux que tu rencontres, par ta communauté ici et par tous les autres en marche dans ta vie. Tu as donc décidé de réfléchir. Et préférant les questionnements musclés aux réponses toutes faites, tu as naturellement choisi pour ce dimanche de Pâques un texte bien costaud qui va nous réveiller à défaut de nous endormir, je l'espère. Notre texte semble d'abord appelé comme un paradoxe. D'un côté, Jésus-Christ m'aime comme je suis et je n'ai qu'à recevoir son pardon et sa parole et me voilà debout. D'un autre côté, on entend ici qu'être chrétien impliquerait des renoncements, des choix, des engagements difficiles, des décisions bien personnelles à assumer. Vous l'avez entendu, Jésus parle dans notre passage de l'aimer plus que sa famille, de porter sa croix, de renoncer à ses biens et de prendre le temps d'une bonne réflexion. Alors, le message de Pâques que l'on annonce toute l'année, est-il finalement si complexe? Nous pouvons nous demander comment concilier cet amour gratuit de Dieu pour nous et l'engagement qui coûte de ma part et pour lui. En fait, il ne s'agit pas pour Luc, le théologien, d'opposer ces deux types de vocations. D'un côté, celle qui est immédiatement suivie des faits, Jésus appelle et le disciple vient, sans se poser de questions. C'est le cas de l'appel des premiers disciples. Par exemple, avec Lévi, Jésus vient le chercher dans son bureau, il est en train de travailler, il rentre dans son bureau, il lui dit « Suis-moi !» Puis l'homme se lève, il laisse tout et suit Jésus. Et puis, d'un autre côté, il y a la vocation qui demande le temps nécessaire de la réflexion, celle qui est commentée dans notre passage. Ces deux manières de répondre à l'appel du Christ, a priori opposées, existent sans que l'une ne prime sur l'autre. Elles sont différentes, mais ne s'excluent pas. Et chacun de vous reconnaîtra ici sa façon à lui de suivre Jésus-Christ. Pour celle que Paul a choisie, tout le monde a bien compris. Essayons de décrypter ensemble ces demandes de Jésus. Au verset 26, « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Certaines traductions disent même « Si quelqu'un vient à moi et ne haït pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. » Difficile quand même à entendre. Luc explique ici que l'engagement à la suite du Christ et tout ce qu'il induit dans ses prises de position et dans ses choix de vie va forcément remettre en question sa vie jusque dans ses relations avec ses proches. N'oublions pas qu'à l'époque où ces textes ont été écrits, le christianisme n'existait pas. C'était donc une façon radicalement nouvelle de penser et de vivre sa vie que Jésus proposait. Il proposait là une vraie rupture dans le quotidien. Et quand Luc parle d'aimer plus, il ne s'agit pas tant de la personne en elle-même que de ce qu'elle représente. À l'époque de Jésus, mais c'est vrai aussi dans certains milieux, le poids de la famille est si lourd qu'il est difficile de s'en affranchir pour tracer sa propre route. Naître dans une famille, c'est forcément suivre sa voie, la voie de ses parents. Vous faites partie, peut-être, des quelques 12 millions de spectateurs qui ont vu « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Caricaturé ici. Mais il n'empêche que l'empreinte familiale reste aussi parfois aujourd'hui très prononcée. Ainsi, entrer dans la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est revêtir une identité nouvelle de fils et filles du Dieu vivant, en acceptant de s'affranchir de nos places sociales et familiales. Alors oui, bien sûr, je reste le fils de Monsieur Untel, la sœur de Mademoiselle Trucmuche, l'employé de Madame Y, celui qui a divorcé, celle qui a raté ses examens. Mais ces identités-là ne m'enferment pas. Elles ne me condamnent pas, car je suis homme nouveau, femme nouvelle, libérée, disciple de Jésus le vivant. Jésus utilise deux paraboles pour illustrer son propos. D'abord, un ouvrier qui se lance dans une construction, mais est obligé de s'arrêter en plein milieu, faute d'avoir pris le temps de la réflexion et des comptes avant de se lancer. Et puis, un chef de guerre qui comptabilise ses troupes et, devant son infériorité numérique, préfère sagement se soumettre. Celui qui veut suivre le Christ doit prendre le temps des comptes et de la sage réflexion. Il doit pouvoir renoncer au pouvoir de ses attaches sociales ou matérielles et placer sa confiance en Dieu seul. Luc exprime ici que pouvoir être disciple du Christ dépend du renoncement de tout pouvoir humain. Jésus déclare aussi cette phrase forte, « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. » Alors dans nos traditions religieuses, nous avons tout de suite cette image du Christ souffrant, la croix sur le dos, avançant vers son calvaire. Et ma foi, cette image ne nous enthousiasme pas et nous avons bien raison. En fait, une traduction plus précise du grec dit ici « porter son fardeau » et non pas « porter sa croix ». Au départ d'ailleurs, cette expression au temps de Jésus n'avait aucun rapport avec la passion. Cette expression existait déjà avant que le Christ ne meure. Et puis vous le savez, à l'époque de Jésus, la mort par crucifixion était courante. Cette expression « porter un fardeau » dans la bouche de Luc signifie d'abord accepter tous les renoncements dont nous venons de parler pour suivre le Christ. Le pouvoir du poids familial, le rang social, les biens matériels. Porter un fardeau, c'est accepter de renoncer aux fausses certitudes pour le suivre fidèlement. Et théologiquement, il ne s'agit pas de reproduire le calvaire du Christ, ce qui serait d'ailleurs un gros contresens, puisque nous croyons que le Christ a souffert pour nous une fois pour toutes et qu'il est mort sur la croix pour nous libérer. Plus besoin pour nous de sacrifice, ce qui ne nous dispense pas d'engagement et de réflexion. Est-ce que vous arrivez à me suivre toujours ? Alors, je continue. Vous l'avez entendu, nous savons que Jésus s'adresse à des foules nombreuses. Alors, il va s'assurer auprès de toutes ces personnes qu'elles ne sont pas là que par effet de mode ou par moment plaisant, mais il leur dit qu'être disciple mérite une vraie réflexion pour un réel engagement. Et nous ? Nous aussi, sommes-nous capables de nous engager ? À nouveau, chaque jour, par le baptême, une fois pour toutes. L'engagement chrétien a cette spécificité qu'il demande chaque jour d'être renouvelé. « Oui, je crois » est une petite phrase nécessaire à se répéter jour après jour. Je le disais hier au couple pour la bénédiction de son mariage, se marier, c'est se redire « oui » chaque matin. Et savez-vous, Dieu n'a pas besoin de personnes saintes, d'êtres parfaits. Il a besoin de femmes et d'hommes confiants, engagés et responsables. Un dernier éclairage sur ce texte. Quand nous avons échangé ensemble avec Paul, tu m'as dit, trouver exagéré la petite phrase « pour me suivre, il faut m'aimer plus que sa propre vie ». Tu me disais ne pas vouloir de déterminisme. Mais tu as bien raison. Car Dieu, en effet, n'est sûrement pas un Dieu magicien, tirant sur les ficelles de nos vies au gré de ses humeurs. On entend parfois, et peut-être le dites-vous aussi, « c'était écrit ». Expression populaire signifiant que cela devait arriver. La pensée biblique est étrangère à cela. Nos vies ne sont pas rédigées à l'avance, sur un grand livre, comme si nous n'aurions plus qu'à entrer dans les pas de celui qui a déjà écrit nos vies. Cela n'est pas la pensée de la Bible. À l'inverse, le Dieu biblique n'est pas non plus le Dieu absent de nos vies, qui nous regarderait songeur de son nuage, nous débattre dans les dédales de nos journées. Notre Dieu, le vivant, celui célébré toujours à nouveau et au cœur de Pâques, est le Dieu présent, le Dieu avec, celui qui ne force personne mais qui est là, sans rien attendre en retour. Il propose son amour à qui veut bien l'entendre. Nous sommes libres ou non d'accueillir sa bonne nouvelle. Lui se tient et restera toujours disponible pour guider nos pas et magnifier nos vies. Pâques, l'Évangile est un appel à la confiance de la part du Dieu vivant. Pour notre veillée de Vendredi Saint, ici, nous avons médité autour du personnage de Judas, ce disciple clé dans la passion de Jésus. Selon les écrits, il a différents visages. Le traître, celui qui s'est trompé, celui qui a été déçu, et jusqu'à l'ami le plus proche qui participe au salut de l'humanité. Nos quatre évangiles gardent l'image de celui qui a fait ses comptes, au sens propre comme au sens figuré, et qui finalement a renoncé à suivre ce Messie qui ne va pas les délivrer de l'occupation romaine, mais qui choisit d'être pleinement homme jusqu'au bout de la mort. Judas a ainsi choisi le temps de la réflexion, et même de la sagesse, pourrait-on dire. Il a finalement décidé de ne pas s'engager à la suite de ce Messie-là. C'était sa liberté d'enfant de Dieu. Pour nous, Ce Jésus, nous l'appelons aujourd'hui, comme plus de 2 milliards de chrétiens, le Christ. C'est le Messie. Il est notre Messie. Celui qui le premier est venu vers nous et que nous avons choisi de suivre instinctivement ou en prenant le temps d'une sage réflexion. Dieu a lui bien choisi de se faire pleinement homme pour venir jusqu'à nous et manifester son amour inconditionnel. C'est la bonne nouvelle pour tous. Et allez, ce n'est pas si compliqué. Nous l'appelons la grâce. C'est le sens de la fête de Pâques. Qui que tu sois, tu es aimé comme tu es et la vie t'est donnée. À toi maintenant de t'engager. Amen.